Voilà, nous continuons notre série consacrée aux chrétiens charnels. Donc, on avait commencé par parler des serviteurs qui étaient des infiltrés. Ensuite, on a parlé des serviteurs qui n'étaient pas peut-être des infiltrés, mais qui avaient quand même un comportement charnel. Bon, après, on a embrayé sur tous les chrétiens, qu'ils soient serviteurs ou pas, mais qui sont charnels dans l'environnement chrétien. L'objectif, ce n'est pas de pointer les gens. L'objectif, c'est que le chrétien ne soit pas surpris, étonné de découvrir cet environnement pour faire marche arrière. Donc, il faut que le chrétien réalise que nous ne sommes pas au paradis, nous sommes sur terre, et même dans les endroits qu'on appelle église, dans les milieux chrétiens, on peut retrouver des difficultés dues au fait que les gens ne sont pas entrés dans la maturité. C'est une réalité et le Seigneur nous appelle à reconnaître cela, mais ne pas laisser faire, à prier pour que ça change. Et à parler quand il le faut, mais surtout à ne pas reculer en se disant « l'Église me déçoit » ou quoi que ce soit, un tel, parce que le combat est personnel. Nous avons un combat collectif, mais nous avons aussi un combat personnel. Quand Paul s'en allait à la mort, il a dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Il avait bien sûr le souci des Églises, mais là, c'est lui qui mourait. C'est lui qui était en train de mourir, plutôt. Et donc, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc, nous avons parlé d'un certain nombre de chrétiens charnels en les décrivant. Aujourd'hui, nous poursuivons en parlant des légalistes. Donc, dans le mot légaliste, il y a la loi. Et autrefois, le Seigneur nous avait donné la loi à travers le peuple d'Israël. Donc, il fallait, pour être considéré bon par Dieu, accomplir la loi. Donc, ceux qui ont le micro peuvent nous aider à faire les lectures aussi pour gagner du temps. Donc, nous allons lire, par exemple, Lévitique 18.5. C'est écrit, comme j'ai la main dessus, Lévitique 18.5, c'est écrit: vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nous voyons clairement Dieu dire que pour vivre, il faut pratiquer la loi. Donc la vie vient de la pratique de la loi. Donc une autre version de ce discours, c'est que puisque la loi, c'est quoi? C'est une liste de choses à faire et à ne pas faire. Donc, cette liste, on peut l'appeler aussi une liste d'œuvres. Voilà, donc la loi, ça va avec la notion des œuvres. Donc, on peut faire de bonnes œuvres et on peut vivre sans faire les mauvaises. Donc, c'est ça la logique de la loi. Et à chaque fois qu'on parle de la loi, on parle des œuvres. C'est-à-dire ce que fait un homme pour être considéré comme juste. Soit qu'il ne fasse pas, soit qu'il fasse, mais c'est ça, ce sont ses pratiques à lui qui le justifient. C'est comme ça que Dieu a fonctionné avec les enfants d'Israël, mais nous savons que cela n'a pas marché, puisque l'homme ayant le péché en lui ne pouvait pas satisfaire à la loi de Dieu. Alors le Seigneur a amené Jésus-Christ pour nous apporter la grâce et la vérité. Nous allons lire Jean 1, 17. La loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà ce que dit Jean 1, 17. Donc c'est bien expliqué. Moïse a amené la loi, mais Jésus amène la grâce et la vérité. Ça veut dire qu'avec Jésus, nous avons la vérité totale. Avec Moïse, on avait la vérité, mais elle n'était pas totale. Il y avait des choses qui étaient encore voilées. Avec Jésus, tout est dévoilé. C'est que même quand Dieu avait donné les instructions concernant la loi, son idée, ce n'était pas que l'homme soit sauvé par la loi. Son idée, c'était que l'homme découvre ses limites par la loi. Donc, en voulant faire le bien, en voulant plaire à Dieu par les bons actes ou en ne faisant pas les mauvais actes, l'homme allait réaliser que sa chair en était incapable, ce qui allait le porter, le pousser à crier à Dieu pour dire « Je n'y arrive pas, aide-moi ». C'est là qu'il serait bien disposé à recevoir le salut gratuit. Donc Dieu a commencé par le salut entre guillemets payant, mais avec un prix impossible à payer, de sorte que l'homme dise « J'en suis incapable, alors Seigneur aide-moi ». Et donc là, quand on va lui proposer le salut gratuit, il va accepter. Donc c'est pourquoi il fallait que la loi précède Jésus pour que l'homme ait soif du salut gratuit. Parce que nous savons que l'orgueil empêche quelqu'un d'accepter la gratuité. L'orgueil fait que l'homme veut mériter. Or, Dieu lui amène, propose un salut sans mérite de l'homme. Et il savait que l'homme allait résister à ce salut-là parce qu'il n'a aucune gloire dans ce salut-là. C'est Jésus qui a toute la gloire, lui qui meurt à la croix, qui souffre pour nous. Et Dieu, sachant cela, il a donné d'abord la loi, de sorte que l'homme s'épuise par la loi à vouloir être juste. Et quand on allait lui proposer le salut gratuit, qu'il dise, oh vraiment, comme nous chantons, « Amazing grace, quelle grâce !» Bon, nous, on a traduit infini, mais en réalité, c'est quelle grâce étonnante. Donc, c'est vraiment étonnant, le salut gratuit. Pour quelqu'un qui a vécu sous la loi, ça fait la joie d'expérimenter un salut gratuit. Donc, Dieu a préparé les choses ainsi. Mais aujourd'hui et depuis longtemps, avant l'Église, et jusqu'à maintenant, les humains continuent à vouloir évoluer par les œuvres. C'est-à-dire faire des choses et se sentir bon à cause des choses qu'ils font. Soit la quantité de prières, soit la régularité dans les activités, soit la manifestation des apparences. Voilà, donc l'homme, soit par des cadeaux, des bonnes œuvres qu'il fait. Donc l'homme, malgré le salut clairement gratuit présenté par Jésus, il veut quand même être sauvé par les œuvres, ce qui le conduit justement à sortir de la parole. Et beaucoup de chrétiens sont encore dans les œuvres. Au fait, ils ne cherchent pas l'aide de Dieu, mais ils veulent aider Dieu. Ils ne cherchent pas le salut de Dieu, mais ils veulent produire leur propre salut. Or, le salut est gratuit. Il y a des gens, par exemple, qui vont insister sur tout ce qui est voile, sur tout ce qui est tenue vestimentaire. On ne dit pas qu'on ne doit pas avoir un regard là-dessus. Oui. Mais ce n'est pas ça, on ne va pas insister sur l'apparence, on doit insister sur la transformation du cœur. Et quand la transformation du cœur a lieu, cela ira avec l'apparence extérieure. Mais on ne doit pas mettre l'apparence avant la transformation du cœur. C'est d'abord le changement du cœur, de cœur qui compte. Et pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui vont insister sur les apparences. Et à l'inverse, il y en a qui se mettent dans des apparences de pureté, croyant que ce sont ces apparences-là qui plaisent à Dieu, qui font qu'ils sont sauvés. Or, nous sommes sauvés gratuitement. Donc, nous lisons Colossiens 2. Colossiens 2. Si quelqu'un a le micro, il peut lire. Colossiens 2. à partir du verset 13. Bon, je vais lire. Il a, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Là, l'accent est mis sur les fêtes, entre autres. Donc, il y a des gens qui vont insister sur les jours, les périodes, tel jour, telle heure. C'est là qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, le Seigneur dit... Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, nous avons Jésus. Tous les jours et tout instant sont réservés à Dieu. C'est pourquoi c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, « Priez sans cesse. » Parce qu'il n'y a plus d'heure parfaite ni de jour parfait. Tous les jours, nous avons maintenant la logique de la totalité. Avant, il y avait la logique de la partialité dans la relation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est total. Donc, tout ce que nous sommes est à Dieu, tout notre temps, tout est à lui. Et donc là, c'est écrit que personne ne vous juge par rapport au sabbat, aux nouvelles lunes. Et même actuellement, nous constatons qu'il y a des chrétiens qui retournent au sabbat, qui commencent à dire que c'est le samedi qu'il faut faire un culte à Dieu. Or, il nous est dit à nous que, dans Romains 12, 1 à 2, offrez-vous en sacrifice vivant, sain et agréable. C'est ça le culte qui est raisonnable. Donc, les gens commencent à retourner à la loi, par les apparences, par les jours, par beaucoup de choses dans ce sens-là, le manger ou le boire. Maintenant, on est libre personnellement de décider de ne plus manger du cochon. On est libre personnellement de décider de faire du samedi un jour spécial pour adorer Dieu. On est libre, parce que c'est ça qui est dit aussi. Hein. C'est dit que personne ne juge l'autre. Si quelqu'un considère que le samedi pour lui, c'est un jour spécial pour adorer Dieu, moi non plus, je n'ai pas à le juger. Mais d'où vient le problème? Le problème vient lorsque celui qui est en train de faire de son samedi son jour spécial considère que ceux qui ne font pas comme lui sont dans le péché. C'est là d'où vient le problème. Donc, c'est là qu'on tombe dans le légalisme. Donc, on croit obtenir le salut par une méthode, par des œuvres. Et donc là, il nous est dit non, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas un jour qui va nous faire obtenir le salut. Le salut est donné gratuitement lorsqu'on a la foi. Donc on retrouve ça encore dans Éphésiens 2, 8 à 10, là où il nous est dit clairement, il nous est parlé de la grâce. Donc Éphésiens 2, 8 à 10, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que quiconque ne se glorifie. Voilà ce qui est dit. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous. Voilà. Voilà la description de l'Évangile, bien-aimé. On connaît ce passage, mais peu de gens pratiquent ça. Donc vraiment, c'est ceux qui sont faibles en Christ qui acceptent ce passage-là. Beaucoup de gens cherchent à se sauver d'une autre manière. Ils veulent avoir un poste dans l'église pour se sentir bien. C'est les œuvres. Ils veulent être félicités. Ils veulent du résultat pour se sentir qu'ils sont bien avec Dieu. Non, il nous est dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Lorsque nous croyons que Jésus nous a sauvés et que nous acceptons ce salut, nous acceptons que Jésus règne dans nos vies, c'est comme ça que nous sommes sauvés. Et donc, il faut accepter cette facilité que Dieu a amenée pour nous. au lieu de continuer à insister, à trouver des moyens pour créer la difficulté, pour se sentir parfait ou bon, on veut créer la difficulté. Non. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres, on est sauvé par la foi. Maintenant, dans le chemin de la foi, il y aura des difficultés. Mais ce n'est pas des difficultés pour nous, pour que nous soyons sauvés, c'est des difficultés liées au combat spirituel que nous avons sur la terre. Donc, quand on est face à ces difficultés, nous nous souvenons que notre Seigneur nous porte et nous fortifie. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les légalistes finissent par devenir vantards et orgueilleux. Parce que comme ils se sentent sauvés par leurs œuvres, ils finissent par s'en vanter. Ils finissent par en parler. Parce que quelqu'un qui sait que ses œuvres ne lui ont pas produit son salut, il ne va pas se vanter de ça. Il sait que son salut est gratuit. Donc il ne va pas dire « je fais ceci, je fais cela » puisque ce n'est pas ça qui l'a sauvé. Mais quand quelqu'un pense que... parce que ce qu'on dit, on dit là, quand quelqu'un pense, rares sont les gens qui vont vous dire « je pense que mes œuvres me sauvent ». Ils ne vont pas le dire, mais on le voit par leur attitude. Comment ils se vantent de leurs œuvres. Donc quand quelqu'un pense que ses œuvres ont une part importante dans son salut, ils finissent par devenir orgueilleux et vantards et en parler, malheureusement. Oui.
Moi, je voulais savoir pourquoi les légalistes, s'ils se sentent si intelligents, si voilà quoi, pourquoi ils ne saisissent pas que Dieu, comme eux, ils sont intelligents, et que Dieu est au-dessus d'eux, Dieu pourrait lui-même les mettre en avant, tout simplement, au lieu de vouloir...
Non, mais ils se croient en avant, puisqu'ils ont fait des œuvres. Ils n'ont pas besoin que Dieu les mette en avant. Eux-mêmes, donc c'est ce qu'on appelle des propres justes, eux-mêmes, ils se sont mis déjà en avant, ils n'ont pas besoin que...
Oui, mais quand quelqu'un se met lui-même en avant, il n'est pas véritablement en avant. Il le sait bien.
Ah, mais ça, c'est toi qui le dis, mais lui considère qu'il est en avant, parce qu'il fait des œuvres.
Si quelqu'un, par exemple, il se dit prédicateur, et qu'il ne prêche pas, mais lui-même, il croit que c'est un prédicateur, mais il n'est pas en avant.
Ah si, pour lui, il est en avant, c'est vous qui ne le comprenez pas.
Ah, d'accord.
Ah, voilà. Donc, ils finissent par se vanter et penser qu'ils sont les meilleurs parce qu'ils font certaines œuvres qui pour eux, ben, ça fait partie de leur salut, en quelque sorte. Oui.
Pasteur, c'est par rapport au jour. Parce que dans Genèse, il est dit que l'Éternel se reposa le septième jour de ce qu'il avait créé. C'était sous la loi.
Non, c'était pas sous la loi. La loi n'était pas encore arrivée.
La loi n'était pas encore arrivée.
Oui.
Pourquoi le dimanche alors? Est-ce que...
Alors, pourquoi le dimanche par rapport à quoi?
Bah, par rapport, c'est par comme nous, en fait.
Par rapport aux chrétiens. Oui. Pourquoi les chrétiens se réunissent le dimanche? Voilà. On retourne dans l'origine des choses. Dieu s'est reposé le septième jour. Et il a demandé à ce que le septième jour soit sanctifié. C'est-à-dire, ça allait être un moyen pour l'homme de reconnaître la grandeur du Créateur. Parce qu'il s'est reposé de quoi? De sa création. Donc l'homme, le septième jour, allait mettre une pause pour dire, Dieu, tu as fait des grandes choses, tu es un grand Dieu. Deuxième objectif, c'était pour que l'homme aussi se repose. Maintenant, qu'est-ce que Jésus vient nous dire dans Jean 5, 17? Mon Père n'est pas au repos. Il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Donc Jésus vient nous informer que, oui, son Père s'est reposé le septième jour, mais la création a été polluée par le péché. Donc Dieu n'est plus au repos. Dieu est en travail pour le salut de sa création, le salut de l'humanité. C'est ce que notre Seigneur vient nous expliquer. Maintenant, ce n'est pas une raison pour, mettre le dimanche. Maintenant, comment se fait-il que les chrétiens se réunissent en général, d'une manière spéciale le dimanche? Parce que nous savons que nous avons plusieurs jours où on s'est réunis. Bon, déjà là, aujourd'hui, ce n'est pas un dimanche, c'est un mardi. Voilà. comment se fait-il que les chrétiens se réunissent en général le dimanche? Ça a commencé avec la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité le dimanche, le premier jour de la semaine. Il est ressuscité le dimanche. Alors, pour les chrétiens, d'ailleurs, leur première salutation, c'était « Christ est ressuscité ». Ils ne se disaient pas « bonjour ». L'un disait à l'autre « le Seigneur est ressuscité ». L'autre répondait « il est vraiment ressuscité ». Pour les chrétiens, la résurrection met un point final à toute discussion. Un, par rapport aux démons, Jésus a vaincu la mort. Par rapport à la mort, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Et par rapport à tous ceux qui pouvaient contester Jésus comme le vrai envoyé de Dieu, la résurrection ferme la bouche de tout le monde. Donc pour eux, le grand jour du chrétien, c'est le jour où Jésus ressuscite d'entre les morts. Donc prouvant en même temps que le jour de la croix était important, puisque à la croix, il a porté nos péchés. Et on sait que cette... ce travail a réussi par la résurrection. C'est la résurrection qui nous informe. Finalement, le travail de la croix a réussi. Et donc, les chrétiens, eux, ils se réunissaient maintenant le premier jour de la semaine pour célébrer cette résurrection. Et donc, cette habitude nous est restée comme ça. Voilà. Mais nous savons, par la lecture des Écritures, qu'il n'y a aucun jour spécial. Donc, comme notre frère Paul vient de dire là, que personne ne nous embête pour les jours. Si une église décide d'avoir un culte par semaine et que ce culte-là, c'est le mercredi, où est le mal? Donc, on est libre. Donc, que personne ne juge l'un ou l'autre. Si quelqu'un estime qu'un jour est plus important que l'autre, que chacun fasse... Au fait, le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est que pendant que tu pries le Seigneur. Même celui qui dit qu'il prie sans cesse, il ne suffit pas de dire « je prie sans cesse ». Il faut que pendant que tu pries sans cesse, tu pries vraiment Dieu. Parce qu'on peut passer du temps aussi à parler, à parler, à parler, à parler, hein, sans vraiment parler à Dieu. Mais on se dit, je suis dans un exercice, je parle. Comme un exercice spirituel, comme nous on a fait autrefois. Moi je me souviens un jour, pendant que je priais, j'entends comme Dieu me parlait. Et au lieu de me taire ou de rester silencieux, je continue à parler. Parce que pour nous, à l'époque, il fallait prier. Voilà, donc or prier c'est écouter, c'est pas seulement parler. Et donc, pendant que l'Esprit me parle, moi je continue à parler et donc j'ai été repris en disant mais je suis en train de te parler, pourquoi tu parles encore? Voilà, donc voilà, on était dans une logique des œuvres. Donc il faut parler, il faut prier. Donc c'est. Et certains, dès que tu dis quelque chose, je connais dans mon pays d'origine, il y a un problème, ah il faut beaucoup prier. Oh, mais c'est comme si. Et quand on te dit ça, avec une, tu sens déjà que ça sent la souffrance. Ah, il faut vraiment beaucoup prier, il y a des combats. Oh, mais la prière, ce n'est pas une souffrance. Pourquoi ça, quand on doit en parler, on doit sentir une sensation de souffrance. Ça, c'est les œuvres. Ah, frère, vraiment, il faut beaucoup prier. Oh, mais pourquoi quand tu dis ça, tu souffres? Donc, est-ce que rencontrer Dieu, ça doit nous pousser, c'est de la souffrance? Parler à Dieu, est-ce que c'est de la souffrance? Non, on doit dire, on va lutter dans la prière. Comme de vrais combattants, on n'a pas à faire comme si on souffre. Non, on ne souffre pas. Au contraire, on se rapproche du Seigneur. Ça peut faire une certaine souffrance pour la chair. On n'en disconvient pas. Mais nous, quand on en parle, on doit aussi avoir dans l'esprit, le goût de cette rencontre qu'on va faire avec le Seigneur. On ne doit pas seulement insister sur la souffrance de la chair, on doit aussi penser, c'est comme quelqu'un qui va au travail sachant qu'à la fin du mois, il a 30 000 euros de salaire, même s'il y a un certain effort dans ce travail, je crois quand même que la joie des 30 000 euros va lui faire parler de ce travail comme quelque chose de positif et non quelque chose de douloureux. Quoi. Oui.
Oui, c'est pour revenir sur la question de la sœur. Moi, j'ai eu, je peux dire, une information comme quoi le fait que le culte soit fait le dimanche, ça a été instauré par l'Église catholique pour ravir la primauté au judaïsme. C'était une façon de combattre le judaïsme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai reçu comme information.
Non, le catholicisme est venu au 4e siècle. Constantin, c'est lui qui est... Le début du catholicisme, l'empereur Constantin, c'est l'an 331. Donc, il y a eu déjà trois siècles. Pendant ces trois siècles-là, donc dans Actes des Apôtres, par exemple, au chapitre 20, on va lire Actes des Apôtres au chapitre 20. Il est écrit ceci, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc voilà un élément que nous avons concernant la réunion des chrétiens. C'est dans la Bible, donc c'est, le catholicisme vient au 4e siècle, alors que ça c'est déjà donc, dès le commencement de l'Église. Donc le premier jour de la semaine, ils étaient réunis. Et nous savons tous que la Sainte Cène, c'est quelque chose de très important. Quelqu'un peut nous dire que peut-être que c'était une deuxième réunion, il y avait déjà une première réunion le samedi. Mais bon, en tout cas, ils ont choisi de faire la Sainte Cène qui est encore une recommandation ultra importante de Jésus aux enfants de Dieu. Donc, ils ont décidé de faire ça le dimanche. Oui.
Là, dans ma version du français courant, il est marqué « Le samedi soir, nous étions réunis ». Donc, c'est dans cette version-là que il marque « Le samedi soir ».
Mais là, c'est écrit « Le premier jour de la semaine ».
Là, ils le traduisent par « Samedi soir ».
Bon. Mais là, c'est parce que le samedi, ils allaient donner, je crois, ou bien quelqu'un d'autre a une autre version, mais c'est le premier jour de la semaine, donc c'est... Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi les éléments historiques. Il n'y a pas que les Actes des Apôtres qui... Après, je ne sais pas pourquoi là-bas, ils ont mis le samedi soir, mais couramment, c'est traduit le premier jour.
Oui. Historiquement.
C'est pas allumé.
Historiquement, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche.
C'est toujours pas allumé. Ah, bon, d'accord.
Historiquement, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche.
Oui, jusqu'aujourd'hui.
Oui, mais même de tout temps, quand ils disent le premier jour de la semaine, c'est bien le premier jour, sachant que le samedi était le septième.
Oui, mais non, là, la polémique, c'est que dans sa Bible, c'est écrit le samedi soir.
Oui, c'est bon, peut-être une interprétation.
C'est écrit dimanche.
Mais c'est le dimanche, le premier jour. Et dans les calendriers d'Air France, le dimanche, c'est toujours le 1.
Voilà. Donc, il s'agit de... Au fait, il s'agit du jour de la résurrection. Je pense que la résurrection a été découverte le matin. Voilà, la résurrection a été découverte le matin, ce n'est pas le soir. C'était vraiment, quand on dit le premier jour, même quand on parle de la résurrection, on dit le premier jour. Donc c'est le dimanche. Et donc c'est cette... Et après, c'est les adventistes qui, avec Ellen White, hein, pour ramener les gens au sabbat, ont inventé cette histoire-là comme quoi c'est le catholicisme qui a institué le dimanche, mais ce n'est pas le catholicisme. Le catholicisme en a profité. Oui, avec l'empereur Théodose, le catholicisme a obligé, voilà la différence, le catholicisme a fait du dimanche un jour férié avec l'empereur Théodose. Oui, là on est d'accord, mais... L'habitude de se réunir le dimanche, ce n'est pas le catholicisme. Le catholicisme en a fait un jour national. Ah oui, puisqu'ils avaient converti l'empereur Théodose et qui a imposé ça. Mais ce n'est pas... L'habitude de se réunir le dimanche était déjà chez les premiers chrétiens. Donc, voilà, le légalisme donc, va conduire à ces choses-là où on veut montrer que on prie beaucoup, on lit beaucoup la parole, on jeûne beaucoup. Je me souviens, là où j'étais avant, quand tu grossissais, c'était mal vu. C'est comme si tu jeûnes plus. Donc, c'est, voilà, c'est ça les œuvres. Donc, on veut souffrir, on veut faire des choses pour se sentir vraiment sauvé. Alors que le salut est gratuit et s'obtient par la foi.
Mais souvent, l'argument qui est donné, c'est le désir de vouloir retourner à la parole.
La raison qui est donnée par rapport à quoi ?
Du pourquoi
il faut... Par rapport au sabbat.
Que ça soit le sabbat ou le légalisme, quand tu dis dans le sens où respecter à la lettre tout ce qui est dit, quand les gens ils vont vraiment insister sur des choses pas forcément
Oui, mais la parole, oui, je comprends. Ils disent qu'il faut appliquer tout ce qui est écrit.
Oui,
mais la parole, ce n'est pas qu'un seul verset, c'est tout un ensemble de versets. Et d'ailleurs, dans 2 Corinthiens 3, qu'est-ce qui est écrit par rapport à ceux qui disent qu'il faut appliquer la loi, il faut appliquer tout. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 6, il est écrit ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà ce que notre frère Paul dit. Ces gens-là veulent insister sur la lettre, donc sur l'écriture d'une manière détachée de Dieu. C'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça, oui, mais... Il faut chercher à comprendre l'esprit, quel enseignement l'esprit veut nous donner à travers ce qui est écrit. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. La lettre tue, parce que la lettre nous impose la loi. Or, la loi nous montre que nous avons échoué, notre chair est incapable de plaire à Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que Paul dit, la lettre tue, parce que la loi nous condamne à mort, alors que l'esprit de Dieu nous donne la vie. Donc, il faut qu'on lise les choses, d'accord, mais on lit dans l'esprit de toute la parole, pas seulement un verset. Donc, c'est ce que notre frère Pierre aussi dit dans 2 Pierre 1. Il dit que 2 Pierre 1, 19 à 21, il explique que aucun passage de l'Écriture ne doit être pris seul pour être interprété. Donc, il faut prendre tout. Il faut tout prendre. Donc, c'est... Et le Seigneur lui-même dit dans Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Donc on doit prendre toute la Bible et connaître quel est le message général et à partir de là, pouvoir interpréter les messages qui peuvent être parfois difficiles. Voilà, donc ce légalisme conduit à ce que finalement, il y a des gens qui vont se recommander eux-mêmes. Donc, nous lisons dans 2 Corinthiens 17 à 18. 2 Corinthiens 10, 17 à 18. Il est écrit ceci. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, ça va faire que finalement... Puisque ces gens-là prennent au sérieux leurs œuvres dans le sens de leur donner un certain salut, ils vont finir par se croire forts et aptes à faire ceci ou cela, et ils vont eux-mêmes parler d'eux-mêmes. Non. Donc un chrétien ne doit pas se recommander lui-même en voulant montrer qu'il est qualifié, il est bon. Il fait le, c'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec les livres où c'est écrit en introduction, préface d'un tel. Donc, il y a des, entre guillemets, grands pasteurs qui écrivent « Ce livre m'a touché ». Un autre grand pasteur qui écrit « Ce livre, si vous le lisez, votre vie va changer ». Donc, laissez-nous lire. Donc, vous ne me menacez déjà avec des notes des grands pasteurs, ce livre est extraordinaire, ce livre a changé ma vie. Donc, 20 recommandations avant que toi tu lises le livre, donc, ou bien c'est mis derrière, donc, comme les gens, on aime voir la couverture d'un livre avant de lire le livre, qu'est-ce qui se passe? Donc tu lis toutes les recommandations, Yonggi Cho dit telle chose, un tel dit telle chose. Donc la Bible, il est écrit, on n'a pas à se recommander soi-même. Ça c'est les œuvres. Ça, c'est le légalisme. Donc, si tu as fait un livre, si tu as fait une prédication, et on fait la vidéo, et il y a des préfaçages, attention, le jour où vous allez écouter ça, c'est comme si ton salut va être obtenu par la lecture de ce document-là. Non, le salut est obtenu en Jésus. Toutes les réunions où c'est écrit des publicités, 4 jours spéciaux avec le Seigneur, vous ne serez plus le même après. Donc, ça veut dire que 2 Corinthiens 5, 17 n'est pas suffisant. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, retenons la parole. Donc quand tu vois que comme ça, 4 jours spéciaux, tu ne seras plus le même, tu vas aussi dans un séminaire comme ça. Comprends déjà que ces gens-là sont dans l'erreur. Ils ont oublié la puissance de Jésus. Et nous continuons dans Colossiens 2. Qu'est-ce qui est écrit? Parce qu'on n'avait pas fini notre passage de Colossiens 2. C'est écrit que ces gens-là renient le Christ. Ils renient. Jésus est suffisant pour transformer les gens. C'est écrit au verset 20. On va revenir au verset 18 pour une autre sorte de chrétien. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Voilà ce qui est dit. C'est-à-dire, pourquoi vous vous laissez troubler par ce genre de recommandations qui donnent l'impression, c'est vrai, il y a une apparence, il ne faut pas toucher ceci, il ne faut pas toucher cela, il ne faut pas toucher. Ça donne l'impression que cette personne-là est consacrée à Dieu. Mais ce n'est qu'une apparence, parce que tout ça nous éloigne de... C'est ce qui est écrit au verset, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Mais aussi, dans un autre passage, non, ce n'est pas ce passage-là, dans un autre passage, c'est dit que ça, il néglige le Seigneur, lui qui est la source de salut. C'est le Seigneur qui est la source de salut, ce n'est pas une réunion, ce n'est pas, même si on ne dit pas, on reconnaît l'importance des réunions. On reconnaît l'importance de certains livres, mais c'est le Seigneur qui reste le porteur de salut. Si ce livre-là ou cette réunion parle du Seigneur, tu recevras quelque chose. Mais si c'est des discours d'hommes, tu ne recevras rien du tout. Donc c'est le Seigneur qui fait la différence, donc ce ne sont pas les œuvres. Donc comprenons cela et ne nous laissons pas avoir par le légalisme. C'est parce que quand on parle de légalisme, certains ne se sentent pas concernés parce que ce ne sont pas des gens qui veulent nous ramener au sabbat ou bien à la loi de Moïse, comme c'est clair pour les adventistes qui sont retournés au sabbat, qui se lavent les pieds dans leur culte, qui font les choses de l'Ancien Testament, qui ne mangent pas le porc, tout ça. Mais il y a une autre forme de légalisme donc, qu'on a décrit à travers... Cette catégorie des chrétiens légalistes, donc tout ce qui est confiance dans ce qu'on fait, au lieu d'avoir confiance en Christ, mais on a confiance dans ce que soi-même on fait. Ce n'est pas normal, on doit avoir confiance en Dieu et dépendre de lui. Tout le reste, c'est lorsqu'on commence à mettre l'accent sur les œuvres, c'est du légalisme, ça va nous amener à la vantardise, à l'orgueil, et à vouloir se recommander toujours soi-même. Dès qu'on se recommande soi-même, il y a un souci. Celui qui est en Dieu ne se recommande pas lui-même. Il laisse Jésus-Christ le recommander. Voilà, il y a une autre catégorie. Ça concerne les chrétiens consommateurs de paroles et de prières. Donc nous lisons dans Ézéchiel 34, 16. Ézéchiel 34, 16. Si quelqu'un a obtenu le verset, il peut nous lire. Ézéchiel 34, 16. Et puis Jacques 1, 22. Ézéchiel 34, 16 et Jacques 1, 22. Ézéchiel 34, 16.
Je chercherai celle qui... était perdu, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui était blessée et je glorifierai celle qui était malade.
On continue.
Mais je détruirai celles qui sont grasses.
Voilà. Celles qui sont grasses là, c'est qui? C'est des brebis. Donc le Seigneur montre qu'il va s'occuper des brebis maigres, il va s'occuper des brebis qui sont persécutée, souffrante, mais il va détruire les brebis grasses. Donc pourquoi Dieu va détruire les brebis grasses? Parce que c'est synonyme de l'inaction, de la consommation. C'est-à-dire, c'est des brebis qui ne font que consommer, mais qui n'agissent pas. Voilà. Donc, il y a une catégorie de chrétiens qu'on appelle les brebis grasses. C'est-à-dire des gens remplis d'enseignements dans leur tête. Ils peuvent faire toutes sortes de corrections quand ils écoutent une prédication. Mais eux-mêmes ne portent aucun fruit. Ils ne travaillent pas, ils n'agissent pas. C'est ce qu'on appelle le brebis grasse. Parce que celui qui travaille, celui qui bouge, ne va pas être une brebis grasse. Il va fonctionner et son fonctionnement va faire qu'il va se dépouiller de ce qu'il a reçu. C'est comme ça quand on fait le sport, on se dépouille de ce qu'on a reçu par la nourriture. Et c'est la même chose avec cette histoire des brebis grasses. On se dépouille de ce qu'on a reçu par la parole et la prière. On peut manifester ça dans l'évangélisation, dans les conseils aux enfants, dans la prière, pour les autres aussi. Oui.
C'est des brebis donc qui connaissent la parole.
On n'entend pas ?
Ce sont des brebis qui connaissent bien la parole, donc des chrétiens qui ont obtenu leur salut, mais ces chrétiens-là, comme dit Dieu, il va les détruire, c'est-à-dire qu'elles iront en enfer.
Il va les détruire.
Ou elles gardent leur salut.
Ça peut arriver que ça finisse ainsi.
Parce que destruction, ça veut dire...
Oui, mais on ne peut pas faire la comparaison totale entre ce passage et la réalité du chrétien charnel. La comparaison totale dans le sens de l'enfer, c'est juste qu'ils vont avoir... Il y aura la destruction, mais ce n'est pas forcément une destruction qui mène en enfer. Parce que je vais te donner l'exemple de celui qui avait pris la femme de son père. L'apôtre Paul a dit, j'ai prié afin qu'il soit livré à Satan, que son corps soit détruit, mais qu'il soit sauvé.
D'accord.
Voilà, il peut y avoir une destruction sans que ça soit... ça peut amener en enfer comme pas. Donc ce n'est pas... Mais c'est que la personne va être détruite sur terre, d'une manière ou d'une autre.
D'accord, mais alors, voilà. Ces personnes qui connaissent la parole, à un moment donné, l'esprit leur dit de travailler pour...
Mais ils n'écoutent pas. Ils se sentent bien. C'est pourquoi on les a appelés consommateurs, non? Donc c'est des consommateurs. Ils vont de séminaire en séminaire consommer, de lecture en lecture consommer, mais ils ne travaillent pas. Ils vont dans les églises consommer, mais ils ne travaillent pas. Et forcément, ça va les rendre orgueilleux parce que ça devient des grands blancos, des encres correcteurs, mais ils n'écrivent pas. Leur spécialité, c'est seulement effacer. Voilà, donc c'est un jour ou l'autre, ben, ils vont vouloir effacer Dieu, ça ne va pas marcher. Oui.
Et donc tu dis ça, c'est des chrétiens charnels.
Consommateurs, oui, oui.
Mais c'est un problème de conversion de base, non ?
On s'est dit qu'à un certain moment, nous, comme on est des humains, on ne peut pas savoir à 100% si c'est l'inconversion ou la chair. Donc, Dieu sait, mais ça peut être aussi l'inconversion.
D'accord, d'où ce que tu expliques là, le fait de dire que peut-être qu'ils iront en enfer ou...
On se limite à notre part en tant qu'humains de constater qu'ils sont charnels. Mais la profondeur de la conversion ou pas, Dieu peut nous révéler, mais bon... Là, on est en train de parler en général. On ne peut pas dire ça pour tout le monde. Oui.
Oui, je vois sur une note, le grec dit, au lieu de « je détruirai », il dit « je garderai ». Celles qui sont grasses et vigoureuses, ce qui semble coller avec « je les ferai paître avec justice », c'est-à-dire dans le droit. Alors ça m'interroge, ça. Parce que d'un côté, on dit « détruire » et de l'autre côté « garder ».
En tout cas, là, c'est « détruire ».
Oui, moi aussi, c'est détruire.
Oui, oui.
Mais la note dit...
Mais chez toi aussi, c'est détruire.
Oui.
Mais la note dit garder.
Garder.
Ah, mais peut-être garder pour la destruction.
D'accord. Oui.
OK.
Oui. Mais pasteur, la suite de ce verset dit que celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice.
Non, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses.
À point, oui. Ouais.
Mais même dans le royaume millénaire, on dit que Jésus va utiliser son sceptre avec justice. Donc, c'est-à-dire qu'il va sanctionner les gens. Il va paître le monde entier avec justice. Donc, ça sera, donc, dans le royaume millénaire, ça ne sera pas comme aujourd'hui, un procès va durer 5 ans pour te sanctionner. Dans le royaume millénaire, quand Jésus sera roi, dès que tu voles, on t'a vu par les caméras, c'est fini. Donc tu
instantané, quoi.
Instantané, voilà. Oui.
Oui. Des fois, ce sont des assemblées où ce que le pasteur semble vouloir tout gérer et faire que les brebis soient que passives.
Voilà.
Bon, j'imagine c'est que le chrétien qui est en
feu... consommation. Oui. C'est-à-dire qu'on vous vend les livres, on vous vend les cassettes, d'une vedette. Donc, tout est fait par un groupe de gens pour que les autres consomment. Voilà. Donc, ce n'est pas poussé à l'action. Évangélisation, voilà, prière. Donc, on pousse les gens à consommer. Voilà. Ouais. C'est ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, aux États-Unis, la quantité d'offrandes, comme ils font, eux, des statistiques, a baissé. Pourquoi ? Parce que les chrétiens dépensent tellement pour acheter des livres, des cassettes, des DVD, qu'ils ne donnent maintenant plus à Dieu lui-même. Vous voyez comment ces gens-là sont mauvais, parce qu'ils ont amené les chrétiens à ne plus penser à Dieu, mais à eux. Voilà. C'est ça la réalité. Et tout ça est dû à la logique de la consommation.
Donc, ce genre de serviteurs qui écrivent des livres et qui vendent aux bien-aimés dans l'Église, après avoir fait la lecture, je ne sais pas, d'un bouquin qui contient, par exemple, 100 pages, on te consacre, pasteur, femme ou homme ou femme. Oui. Ils sont dans ces catégories-là.
Mais ils sont dans cette catégorie. C'est des faux bergers. En fait, Ézéchiel 34 nous parle de faux bergers. C'est ça le sous-thème d'Ézéchiel 34. Ça nous parle de faux bergers. Donc, c'est des gens. Donc, clé USB à 1000 euros. Quand tu as fini la clé USB d'enseignement, on te nomme pasteur. Voilà. Mais ça, c'est lié à l'esprit de consommation. Oui.
Mais il n'y a pas des brebis. Enfin, moi, je me suis toujours posé la question. Il y a des brebis qui sont grasses, mais ce n'est pas de leur faute.
Comment ça ?
Ben, parfois, pour aider, pour appliquer, enfin, déjà prendre soin de soi-même, quoi. Entre guillemets, soin. C'est-à-dire, déjà, tiens-toi
si
droite.
Si elle est grasse, c'est qu'elle a vraiment bien pris soin, trop. Pris soin d'elle-même. Hein,
non, mais parfois, tu peux avoir des enseignements, mais tu... Non, personne n'est parfait, c'est pas ça, mais parfois...
Oui, mais ça, c'est l'esprit
difficile.
De consommation. En fait, tu veux bien te sentir toujours bien. Ça ne finit pas, tu manges encore. Donc, à un moment, on te dit non. Ce que déjà tu as, tu peux faire quelque chose.
Donc, ça veut dire que tous les chrétiens doivent travailler.
Ah, mais oui!
Non, mais travailler, mais ça ne veut pas dire travailler.
Mais c'est l'esprit qui nous conduira. Nous, on ne va pas dire qu'est-ce qu'il faut faire.
Non, mais c'est déjà dans la maison, ce n'est pas travailler toujours.
On n'a pas dit à l'extérieur. On a dit qu'il faut travailler. Il faut travailler.
Dans la moisson.
Partout. Et dans la maison et partout.
Oui, parce que si c'est à la maison, tu t'occupes des enfants, tu veilles à ce qu'ils aient la parole. Ça, c'est du boulot déjà que tes enfants puissent.
Non, ça, c'est chacun avec le Saint-Esprit. Il est dit, on te demandera en fonction de ce qu'on t'a donné. Donc Dieu te demandera des comptes par rapport au talent qu'il t'a donné. Tu en as fait quoi? Si tu n'as fait que manger, il t'aura. Il dira, mais je t'ai donné ça, 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 ça. Toi, tu as préféré garder ça chez toi. Alors qu'il fallait dépenser avec les autres. Voilà. Ça, c'est personnel. Oui.
Oui.
Ça marche, hein? Oui.
D'accord. Oui, pasteur, quand on passe le temps à lire les livres comme ça, le Saint-Esprit doit être bouleversé parce qu'on lit tout et n'importe quoi. Est-ce que est-ce qu'en ce moment, il a vraiment le Saint-Esprit ou je sais
oui,
pas.
Le chrétien peut avoir le Saint-Esprit, mais faire taire le Saint-Esprit. Oui. 1 Thessaloniciens 1,19 dit « N'éteignez pas l'Esprit ». Donc, on peut l'éteindre. Voilà. Oui.
Est-ce que c'est la même chose quand la dernière fois quand tu as parlé de
des femmes qui apprennent toujours et qui n'arrivent pas à la connaissance. Est-ce ces brebis-là, grâce, elles sont arrivées à la connaissance ou elles ne sont pas arrivées à la connaissance et pourquoi elles ne donnent pas cette connaissance aux
brebis ? Donc intellectuellement, elles ont emmagasiné des informations, mais elles ne sont pas dans la vraie connaissance parce que la vraie connaissance pousse forcément à l'action et à l'obéissance à Dieu. C'est ça la vraie connaissance, forcément. Mais elles ont beaucoup d'informations, voilà, dans la tête, ces brebis-là.
D'accord. Je voudrais comprendre, dans Ézéchiel 34, quand, parce que là, dans le titre, c'est les faux bergers. Et après, ces faux bergers-là, Dieu, à leur tour, les appelle les brebis. Ils les considèrent comme des brebis. Mais en quoi est-ce qu'ils n'ont pas... je ne comprends pas. En quoi est-ce qu'ils n'ont pas... comment est-ce qu'ils n'ont pas pris soin des autres brebis?
Mais c'est écrit, ils ont mangé eux-mêmes, les bergers-là, dans Ézéchiel 34. Au lieu de prendre soin du troupeau, ils se sont gavés eux-mêmes.
Concrètement, dans la vie de... voilà, comment ça, un pasteur ne va pas...
Mais on a donné des exemples des gens qui ne pensent qu'à vendre des livres, des CD, des DVD pour s'enrichir. Donc, ils utilisent les brebis pour leur enrichissement et non pour la croissance spirituelle des brebis. Voilà, c'est dans ce sens-là.
Merci.
OK. Donc, c'est... Il faut passer de la consommation à l'action, bien-aimée. On ne doit pas être là à amasser des connaissances. Il faut qu'on dise comme le frère Paul au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Voilà, il faut sans cesse qu'on soit au service du Seigneur. Parce que sinon, on va devenir des brebis grasses. On amasse des connaissances, on amasse des choses et on se croit juste parce qu'on a beaucoup de connaissances. Non, ce n'est pas la connaissance qui sauve. Il est écrit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc la connaissance donne l'orgueil, mais l'amour construit. Donc le Seigneur veut qu'on travaille. Donc si c'est la bonne connaissance, ça va nous pousser au travail, d'une manière ou d'une autre. Et cette connaissance nous embêtera pour nous dire, mais qu'est-ce que tu attends ? Mais si c'est juste, on a pris les choses d'une manière intellectuelle, on entasse verset sur verset. On a l'exemple simple des gens qui font la théologie aujourd'hui. Il est entré en première année normale, il sort en quatrième année homosexuel. Donc, pendant 4 ans d'études bibliques, c'est là qu'il devient homosexuel après. Donc, ça veut dire qu'il a amassé des connaissances, mais sa vie est devenue une pourriture. Donc, c'est des brebis grasses qui entassent connaissance sur connaissance. Mais en réalité, ce n'est pas la vraie connaissance, celle qui vient du Saint-Esprit, mais c'est la connaissance qui vient de l'intellect, du cerveau, et ça amène des déviations très, très graves. C'est ça la réalité. Oui?
J'avais une question, c'est peut-être pas lié au thème d'aujourd'hui. Bon, je pense bien aussi, oui, parce qu'on parle de l'environnement chrétien. Qu'est-ce que tu dis de certains chrétiens qui pensent que la femme ne devrait pas enseigner les femmes, puisqu'il est dit la femme n'avait pas le droit d'enseigner. Il y a certaines personnes qui pensent que...
Il y a une raison qui est donnée dans 1 Timothée 2, 9 à 11. Il y a une raison qui est donnée, c'est parce qu'elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme. La raison du non-enseignement de la femme, c'est la prise d'autorité sur l'homme. Ce n'est pas pour parler à d'autres femmes. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la prise d'autorité sur l'homme. On n'a pas dit que la femme ne doit pas enseigner à cause de son cerveau ou bien à cause d'un problème qu'elle a. Non, c'est à cause du fait qu'elle ne doit pas prendre le dessus, l'autorité sur l'homme. Donc, ce qui n'empêche pas la femme à enseigner les autres femmes. C'est ça, puisque la raison, c'est la prise d'autorité sur l'homme. Ce n'est pas une autre raison. Donc nous continuons. Jacques 1, 22 dit aussi, ne vous bornez pas, on avait cité ça, à écouter seulement, il faut mettre en pratique. Donc au fait, à chaque fois que nous écoutons un enseignement, nous devons penser à la pratique. Quand nous écoutons un enseignement, nous nous sentons juste plus connaisseurs qu'avant, ce n'est pas normal. Un enseignement doit nous pousser à la pratique. Donc tu écoutes une prédication, si vraiment ça t'a touché, on voit la différence. Il y a des gens qui écoutent. Vous voyez que le lendemain même, il appelle un tel pour demander pardon pour quelque chose. Le lendemain, donc, on sent que
ça a fait quelque chose dans sa vie. Mais il y a d'autres qui écoutent, qui sont souriants, qui sont contents, mais c'est comme une quantité de connaissances qui s'est juste ajoutée. Ce n'est pas normal. La vraie connaissance s'accompagne de la pratique. Et souvent, un des grands dangers de la connaissance, c'est qu'on pense que c'est pour les autres. La connaissance est pour nous-mêmes. Dieu ne parle pas pour les autres, il parle pour toi-même d'abord. Ensuite, il parlera pour les autres. Mais quand on est juste dans la connaissance intellectuelle, on a tendance à croire que c'est pour les autres. Ce n'est pas normal. Voilà. Oui ?
Est-ce que le système qui a été mis en place pour former des pasteurs, le système qu'on connaît, qui existe, où on forme des gens, on leur apprend, on leur donne des enseignements, puis après on les établit pasteurs, sans même considérer le Seigneur dans cette affaire, est-ce que c'est pas
du... Est-ce que tu peux rapprocher parce que...
Est-ce que c'est pas du légalisme, ça ?
Est-ce que ce n'est pas du légalisme ? Oui, c'est les œuvres. C'est les œuvres. C'est du légalisme, c'est-à-dire qu'on a fait un cursus. Tu suis le cursus et après tu es déclaré pasteur ou responsable. Non, on est déclaré en fonction des conditions de la Bible. Bon témoignage, le Saint-Esprit aussi parle. On se souvient dans Actes des Apôtres, chapitre 13, il est dit que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Donc il y a le Saint-Esprit qui parle, il y a le témoignage, il y a aussi la connaissance. Maintenant qu'on fasse des écoles où les gens étudient pour... savoir mieux encore la Bible, c'est une bonne chose. Mais ça ne fait pas d'eux automatiquement des pasteurs, parce que être pasteur, c'est un appel qui vient du ciel. Dans Éphésiens 4, c'est dit que c'est Dieu qui donne ces dons-là aux hommes. Maintenant, c'est un don qui nécessite aussi qu'on ait une certaine connaissance pour bien l'utiliser. Et donc, qu'il y ait des écoles pour que les gens apprennent, c'est une bonne chose, tant qu'ils apprennent bibliquement. Maintenant, ce n'est pas ça qui fait l'appel. Donc, autrement dit, quand on donne les appels en fonction des écoles, on est dans les œuvres. Donc quelqu'un a travaillé, il a étudié, on fait de lui un pasteur. On est dans les œuvres, on n'est plus dans la parole de Dieu. Oui.
Ça me trouble un peu quand on dit qu'on ne doit pas donner des responsabilités à un nouveau converti. Sinon il va devenir orgueilleux, mais quand on voit un peu là, on voit que non, c'est plus quand on est dans le temps, on a appris, et on s'est rempli des connaissances, c'est là que l'orgueil vient. Un nouveau converti, c'est dans quel sens quand on dit qu'un nouveau converti, si on lui donne des responsabilités, il va devenir orgueilleux, il vient de se convertir, il n'a pas de connaissances, c'est plus les gens qui ont plus de connaissances qui deviennent orgueilleux.
Ah non, c'est les gens qui il y a deux, là on va finir par parler aussi des chrétiens spirituels. Il y a des gens qui par la connaissance deviennent orgueilleux, mais il y a d'autres qui deviennent beaucoup plus humbles parce qu'ils connaissent mieux le Seigneur et qu'ils ont vu les expériences, qu'ils ont goûté à la réalité des affaires. Mais non, le nouveau converti, son problème, c'est qu'il n'a pas l'expérience. Il n'a pas goûté à certaines réalités. Et il risque de croire que l'énergie qu'il a en lui suffit pour tout faire. Donc c'est pourquoi il a besoin d'abord d'apprendre, de goûter à certaines réalités pour entrer dans la maturité. Sinon, il risque de croire que son énergie suffit. Or, ce n'est pas l'énergie qui commande, parce que le nouveau converti a beaucoup d'énergie, plus qu'en général les anciens convertis. Et donc, il risque de croire que son énergie va tout régler. Et il risque aussi, parce que quand on dit nouveau converti, ce n'est pas toujours des conversions à 100% parfaites. Il y a aussi beaucoup de gens, quand ils se convertissent, il y a cette réalité qu'ils amènent naturellement leur ancienne vie comme une sorte, la partie positive de leur ancienne vie comme une sorte de richesse. Un nouveau converti qui était riche avant va vouloir utiliser l'argent. Alors que dans les choses de Dieu, ce n'est pas l'argent qui compte. Un nouveau converti qui était très intelligent à l'école ou bien qui a beaucoup de diplômes va avoir tendance à vouloir utiliser ça. Donc il faut un temps où la personne qui va permettre à la personne d'apprendre l'humilité, d'apprendre que c'est Dieu qui fait. Le nouveau converti ne l'a pas encore suffisamment appris. Nous avons un bon exemple avec Pierre. Donc, il avait un zèle de nouveau converti. Il a fallu du temps pour qu'il apprenne l'humilité, qu'il apprenne que c'est Dieu qui fait, ce n'est pas lui qui fait. Donc, c'est ça la réalité. Souvent, le nouveau converti ne connaît pas beaucoup de situations, mais pense que, parce que comme il a l'énergie, il pense que cela suffit pour tout résoudre. Non, il y a des réalités, il y a des choses parfois cachées au début. Dieu nous révèle par la suite les situations, même tout ce qu'on est en train de dire là sur l'Église. Et donc ça demande un certain temps, apprendre ça, apprendre à connaître Dieu et apprendre à connaître les humains pour pouvoir ensuite parler aux humains. C'est très important. Ok, nous passons aux chrétiens à l'aise, donc les chrétiens qui veulent être à l'aise. Voilà. Et ils ont souvent le langage, je ne me sens pas bien ici. Mais non. Voilà, le but de Dieu, c'est de nous amener à le servir. Il a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te mettais la ceinture, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est-à-dire mature, je te mettrai la ceinture, je t'amènerai où tu ne voudras pas. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on doit chercher à être soi-même à l'aise. On doit chercher la volonté de Dieu. C'est très important. Parce que ça conduit après à l'instabilité. Puisque qui peut être à l'aise sur terre? Même le Seigneur n'a pas été à l'aise. Parce qu'on se souvient un jour, il a dit, race incrédule, jusqu'à quand je serai avec vous? Donc même le Seigneur, en compagnie des humains, à un moment, il a été mal à l'aise. Donc on ne peut pas chercher une aisance total sur terre. C'est le paradis qui nous amènera ça. Donc si on fait de ça un critère de communauté, ça ne peut pas marcher. La communion suppose des frictions. Et c'est ça qui produit la bonne sauce. Donc quand on met les aliments tout simplement dans la marmite, si on ne chauffe pas, il n'y aura pas de bon goût. Lorsqu'on chauffe, la température rend les molécules déplaçables. Ça bouge et ça se mélange ça, par des chocs. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on mange et c'est bon. Alors que si on ne chauffe pas les molécules, chacune reste à sa place, donc le goût ne viendra pas. Donc il faut comprendre que les frictions au milieu des enfants de Dieu, font partie du travail du Seigneur pour nous faire grandir, nous tous. On ne peut pas grandir que dans une atmosphère agréable. Donc, même combien de fois la médecine change. Autrefois, on nous demandait de stériliser les biberons à fond. Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut pas trop stériliser aussi parce qu'il faut laisser un peu de microbes pour l'enfant. Enfin, parce que ils se sont rendus compte que trop de stérilisation, il n'y a plus de microbes, l'enfant ne se fabrique plus des anticorps. Donc, même l'homme a besoin de se battre avec ses anticorps pour grandir. Donc, si on est dans un endroit où tout le monde est gentil avec nous, tout le monde dit oui, tout le monde nous sourit, mais comment on va grandir? C'est trop facile. C'est ce que Jésus a dit quand il parlait. Il a dit, mais si on est bon avec les gens qui sont gentils avec nous, où est la différence avec les voleurs? Les voleurs sont aussi bons avec les gens qui sont gentils avec eux. Notre critère, c'est pourquoi c'est écrit, nous allons lire dans Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. Oui, celui qui a trouvé peut nous lire.
N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et Cela d'autant plus que vous soyez s'approcher les jours.
Vous voyez
s'approcher les jours.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui est dit à la suite de n'abandonner pas vos assemblées ? Exhortez-vous. Donc, cela est supposé, on suppose que la raison d'abandon, c'est le manque d'exhortation. C'est-à-dire, il y a des incompréhensions, il y a des malentendus, il y a parfois aussi des coups bas. Il n'y a pas de problème. Nous devons nous corriger, nous exhorter, parce que c'est écrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Donc nous devons pratiquer ça par des exhortations, par des échanges. Mais c'est écrit aussi, diacre, dans Hébreux 10, 39. Hébreux 10, 39.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
Voilà, nous ne sommes pas contre, dans l'absolu, contre le fait de quitter un groupe et d'aller dans un autre groupe. On n'est pas contre ça dans l'absolu, parce que si un groupe ne suit pas Dieu, si un mouvement n'honore pas Dieu, mais honore le mouvement lui-même, honore autre chose, au contraire, on doit vite quitter. Mais nous sommes en train de parler des petits problèmes qui peuvent y avoir ou qui nous mettent mal à l'aise. Ce n'est pas que la doctrine est mauvaise, ce n'est pas que l'enseignement est mauvais, ce n'est pas non plus que Dieu n'est pas là, c'est juste nous qui sommes mal à l'aise. Mais on doit chercher pourquoi je suis mal à l'aise. Si c'est juste parce qu'on ne m'a pas dit bonjour, c'est moi qui dois... Il est écrit dans la parole, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le aux autres. Donc, bon, quand moi je veux qu'on me dise bonjour et qu'on me le dit, on le fait pas, moi je vais commencer à dire bonjour, c'est ce que dit la parole. Donc là, on est en train de parler du fait de se sentir à l'aise. Si on ne semble pas, oh, mais tiens, ici, on ne remarque pas mes dons. Ben, si on ne remarque pas tes dons, demande à Dieu vraiment de les multiplier fois 100 pour qu'on les remarque. Voilà. Ce n'est pas une raison pour quitter un groupe parce qu'on n'est pas à l'aise. Ça, c'est des raisons égoïstes. Donc, on doit quitter parce que Dieu ne veut pas, à cause des erreurs doctrinales, à cause du fait que ce n'est plus Dieu qui est servi, mais c'est autre chose. Voilà. Donc, c'est ça les raisons qui doivent nous pousser à quitter. Quand on cherche à être à l'aise, on finit par être instable parce que comme nous sommes sur terre, il n'y a pas d'endroit où on sera totalement à l'aise. Donc, partout où on ira, il y a quelque chose qui ne nous mettra pas à l'aise. Est-ce que c'est... Même Dieu lui-même, bien-aimés, soyons honnêtes, Dieu lui-même. Est-ce que des fois, nous ne sommes pas mal à l'aise avec Dieu à cause de nos erreurs? Oui. Des fois, nous sommes mal à l'aise avec Dieu lui-même parce qu'on trouve que sa parole nous contredit. Donc, ça veut dire qu'on doit quitter aussi Dieu. Donc c'est ça la réalité, c'est qu'une telle personne finira par dire Dieu, bon toi aussi je te quitte parce que tu es une mauvaise assemblée. Parce que voilà, c'est ça la réalité. Nous devons quitter lorsque les raisons sont liées à la reconnaissance de Dieu comme le véritable Dieu, au service de Dieu. Lorsqu'on ne sert plus Dieu, on sert autre chose, là on doit quitter. Lorsque les objectifs ne sont plus les objectifs de la Bible, là on doit quitter. Mais ce n'est pas parce que nous on n'est pas à l'aise. Là c'est pas parce qu'on peut être mal à l'aise parce que notre chair est en train d'agir. Voilà. Et non pas il y a absence de Dieu. Donc c'est cela, ça conduit finalement à l'instabilité. Or, le Seigneur veut qu'on construise. Le Seigneur veut qu'on bâtisse. Dans Psaume 92, c'est écrit que Dieu nous plante. Hein, dans Ésaïe 61, c'est dit qu'il fera de nous des térébènes de justice. Comment tu vas être térébène si on doit te déplacer tout le temps dans un pot de fleurs? Pour te déplacer, on te met dans... Tu vas devenir une plante bonsaï, donc qu'on met dans un bureau. Qu'est-ce que tu vas produire? Est-ce que les bonsaïs produisent aussi des fruits? Je ne crois pas. Voilà, donc. Tu vas devenir un bonsaï donc qu'on met devant sur le bureau. Non, il faut prendre racine, produire du fruit. C'est-à-dire que tu bien aimé, tout ce que nous faisons comme église, hein, ce n'est pas grâce à un homme, c'est grâce à nous tous. Donc tu peux après 10 ans
regardez, tiens, nous venons de loin. On se souvient quand on était 20, quand on était 15. Voilà, tout ça, c'est nous tous qui travaillons. Mais quand tu ne peux pas dire ça, tu viens toujours de près. Attends, mais non. Il faut un moment dire, ah, il y a eu un parcours, voilà ce que Dieu a produit. Voilà. Parce que Jean 15, dans Jean 15, le Seigneur dit, je veux que vous portiez du fruit. Je veux que vous portiez du fruit. Donc, comment tu vas porter du fruit si tu ne t'enracines pas quelque part pour aider, contribuer? Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est là où on cherche à être à l'aise, ça finit par produire instabilité. Nous devons chercher la volonté de Dieu, chercher le Seigneur. Et lorsqu'il y a des soucis, qu'on s'exhorte, qu'on se parle. Voilà, c'est très important. Au lieu de s'arrêter à soi-même, mais considérer que Dieu veut qu'il y ait aussi, permet qu'il y ait des frictions pour notre croissance à nous. La croissance vient dans le combat aussi, vient dans la difficulté. La croissance ne vient pas forcément dans l'aisance, mais dans la difficulté aussi. Et comme c'est écrit dans Hébreux 10, le Seigneur revient bientôt. On ne va pas passer notre temps à satisfaire aux caprices de l'homme que nous sommes. Cherchons à plaire au Seigneur afin de participer à l'enlèvement. Voilà, nous continuerons. Oui, Diac.
Oui, pasteur, de friction entre enfants de Dieu, si on est né de nouveau, ben, comme on n'est pas parfait, ça arrive. C'est résolvable, il y a toujours la solution. Mais si on sent que, je ne sais pas, si on sent que un frère ou une sœur, il répète toujours la même chose, on a beau parler, on a prié, ça ne change pas. On sent que ça ne vient pas de Dieu, des provocations comme ça. Quelle attitude peut-on avoir?
La prière, parce que moi je rappelle toujours que Dieu est tout puissant. Moi, je me souviens, il y a une sœur qui est venue me voir pour me dire, pasteur, vous savez, le monsieur dont on a parlé, on a regardé la vidéo une fois, pendant l'adoration, qui disait que Dieu est interdit sur terre. Pour que Dieu vienne sur terre, nous devons lui donner la permission. Donc, sur terre, il n'y a que nous, les hommes, qui avons l'autorité. Même Dieu est interdit. Alors tout le monde était choqué et la sœur est venue me voir pour me dire, mais pasteur, mais cet homme, mon mari l'attend pour le rencontrer quand il viendra. Moi je dis à la sœur, Dieu est tout puissant. Nous allons prier et Dieu va agir. Bien aimé, j'étais au Congo, je vois qu'un coup de fil qui vient, je dis, mais tiens, pourquoi elle m'appelle? Elle m'appelle pour me signaler que le monsieur, le fameux pasteur est mort. Donc mon mari ne va pas le voir. Je dis, bien aimé, la prière du cœur d'une femme a permis que son mari soit à l'écart. Mais qui peut imaginer qu'une simple femme, à cause d'elle, Dieu peut éliminer un grand faux serviteur? Mais ça peut être que juste ça. Dieu a dit, je ne veux pas qu'il embête le mari de ma fille. Allez, retour quelque part. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est parti au ciel. Voilà. Ah oui, nous devons faire confiance que Dieu est tout puissant pour écarter n'importe qui. Donc si on sent que quelqu'un devient un obstacle, prions le soir. Disons, Seigneur, tu vois, là, moi, je commence à changer de couloir. Fais quelque chose. Voilà. Donc, nous devons prier et personne ne peut être plus puissant que le Seigneur. Le Seigneur est tout puissant pour mettre de l'ordre dans son Église et notre prière est beaucoup plus efficace que notre mécontentement. Nous devons prier et dans l'esprit aussi d'amour, on dit, Seigneur, fais quelque chose. On ne va pas dire forcément écarte la personne. On dit, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Voilà, c'est ton Église après tout. Alors, prions que le Seigneur nous aide à supporter tout ce qu'on est en train de décrire dans le but de construire et que le Seigneur lui-même
écarte ce qu'il a écarté, ce qu'il a écarté au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour l'assistance du Saint-Esprit dans le travail qui vient d'être effectué. Tu sais bien que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la force, c'est toi qui nous as donné l'inspiration, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la détermination aussi, Seigneur, parce que nous sommes là avec beaucoup d'occupations, mais nous nous retrouvons encore mardi à 18h pour discuter, prier ensemble. Seigneur, nous voulons, ma prière ce soir, Seigneur, que chacun de nous considère que tu le prends en importance, que tu as besoin de chacun de nous, non pas que tu aies besoin d'un homme en réalité, mais c'est parce que tu as choisi de travailler avec nous, comme c'est écrit dans Luc 12, « Petit troupeau, votre Père a choisi de vous donner le royaume. » Seigneur, que nous prenions conscience que ces études bibliques sont là pour nous amener à être beaucoup plus efficaces dans le travail et non pas à devenir des grands connaisseurs. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous nous attendons à toi. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.